9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alizée Niter, bonjour.
Bonjour.
On vous doit des romans comme Sombre dimanche, Juste avant l'oubli ou L'art de perdre, mais en cette rentrée littéraire, ce n'est pas un roman que vous publiez. Toute une moitié du monde est une réflexion intime sur la fiction, en tant que lectrice, en tant qu'auteur, et sur la place des femmes dans la fiction. C'est pendant le premier confinement que vous avez commencé à y réfléchir. Pourquoi à ce moment-là ?
Parce qu'en fait, j'avais l'impression que les histoires que me proposaient les fictions que je trouvais dans mes lectures, mais aussi dans les films et les séries, étaient tout à coup complètement éloignées de ce que je vivais, de ce qu'on vivait à l'échelle nationale, c'est-à-dire une situation qui était complètement suspendue et dans laquelle le futur était absolument incertain. C'était impossible de se projeter et de savoir. Parfois, on se disait, mais si ça se trouve, dans deux semaines, on va se réveiller et, je ne sais pas, 10% de l'humanité aura été éradiquée par ce nouveau virus. Et parfois, on se disait, peut-être que dans deux jours, on va nous dire, les gars, on a paniqué un peu trop, en fait, pardon, c'est bon, ressortez, revenez à la normale, il ne s'est rien passé. Et donc, voilà, ce futur comme ça, complètement, complètement flottant, rendait d'une certaine manière obsolète ou mensongère toutes les histoires que je voyais autour de moi et où le héros pouvait se lancer en étant sûr que demain, la situation ressemblerait à celle d'aujourd'hui.
Vous dites aussi que pendant ce confinement, on se sentait comme des enfants, au fond, dans l'incapacité de décider pour nous-mêmes. Et c'est une tendance des enfants de se rabattre sur la fiction, justement.
En tout cas, oui, moi, ça m'a rappelé mon état de mineur, en fait. Quand, dans ma chambre d'enfant, je lisais pour pouvoir me projeter dans des existences de gens plus puissants que moi et de gens qui pouvaient prendre des décisions qui allaient changer le cours du monde. Je lisais pour être mousquetaire, je lisais pour être pirate, je lisais pour être prince, pour être... Et à côté de ça, bah, en fait, j'étais obligée tout le temps de dépendre de la volonté des adultes si je voulais que quelque chose se passe dans ma propre vie et qu'on m'enlève aux quelques mètres carrés où j'habitais quotidiennement. Donc, il y avait clairement un écart entre cette toute-puissance que je trouvais dans la fiction et cette puissance qui était liée à mon statut d'enfant. Et pendant le premier confinement, j'ai retrouvé ça, sauf que j'arrivais plus à croire aux fictions qui auraient pu m'arracher à mon impuissance.
La fiction à laquelle il manque tout de même, d'après vous, toute une moitié du monde, hein, c'est-à-dire les femmes, c'est le titre de votre livre. Et la preuve, hein, puisque vous venez de le dire, quand vous lisiez de la fiction enfant, c'était pour vous identifier à un prince ou à un mousquetaire. Au fond, une lectrice, elle doit d'abord et souvent s'identifier à un homme.
Si on cherche en effet des existences actives, aventurières dans la fiction, eh ben on va se projeter dans les personnages masculins à quelques rares exceptions. Alors merci Fifi Brin d'Acier, merci Claude du Club des Cinq, même si en fait Claude elle peut être active seulement parce qu'elle ressemble à un garçon. Et donc comme on la prend pour un garçon, ben, on lui laisse faire des choses de garçon.
Il y avait Fantomette, mais je me souviens de Fantomette.
Il y avait aussi Fantomette qui était super, en fait. Tout à coup, je me dis, elle était super, Fantomette.
Ah, moi, je lisais Fantomette, je l'adorais.
Boulotte et Ficelle n'étaient clairement pas des modèles féminins auxquels j'aurais pu m'identifier. Et même étaient des caricatures un peu misogynes de femmes. Mais Fantomette, elle était bien, ouais.
C'est pas seulement dans la littérature enfantine. Hein. Pendant très longtemps, il y a eu un déficit de modèles féminins dans la littérature pour adultes.
Oui, c'est-à-dire que celles qu'on me présentait comme des grands personnages féminins de la littérature, alors certes, pouvaient être des personnages extrêmement bien écrits et appartenant à des chefs-d'œuvre littéraires. Mais au bout d'un moment, quand on fait le compte et que l'accumulation commence à peser, on se dit mais c'est que des amoureuses, amoureuses qui finissent et non seulement éplorées, mais qui finissent suicidées ou qui finissent assassinées ou qui finissent au couvent ou qui finissent malades, parfois foudroyées par un chagrin d'amour tel qu'elles meurent. On ne sait pas si c'est censé être du suicide ou une sorte de capsule de poison déclenchée par une morale extérieure. En tout cas, aucune de ces femmes n'a une trajectoire qui puisse faire envie.
Alors, et donc, quand j'ai lu ces pages-là, Alizée Niter, je me suis dit, elle exagère, il y a des milliers de personnages féminins fascinants dans la littérature,
on a trouvé Fantomette,
dans la peinture, dans le théâtre, dans le cinéma. Mais peut-être qu'elles sont fascinantes pour un homme qui les regarde de l'extérieur et qu'une femme, elle, les trouve un peu superficielles.
Ou alors, comme je dis, peut-être qu'elles sont fascinantes quand on les rencontre rarement, mais si elles constituent l'essentiel, les 99% des femmes qu'on peut rencontrer au pays de la fiction, alors elles commencent à devenir pesantes, inquiétantes, angoissantes. On lie forcément leur statut de femme à leur histoire tragique. Et donc on se dit, mais du coup ça va être comme ça pour moi aussi. C'est ça qui m'est promis, c'est ça l'horizon d'attente.
Moi je pensais plutôt à des personnages féminins qui sont toutes belles, qui aiment les hommes, qui aiment le sexe, qui veulent le pouvoir, qui veulent l'argent, qui veulent faire des enfants, c'est-à-dire des fantasmes, au fond.
Oui, alors ça, c'est vrai que cette idée des personnages féminins qui aiment tous les hommes, le sexe et qui jouissent en quatre lignes, c'est une des fameuses citations des Pentes dans King Kong Theory, qui m'a fait réaliser que moi aussi, en fait, j'avais créé une immense partie de mes personnages féminins pour qu'ils soient désirables pour les personnages masculins. Parce que je m'étais habituée à ça, en fait. Ma fréquentation des livres m'avait fait penser, mais de manière très inconsciente, qu'un personnage féminin, c'était fait pour apparaître dans un bal, un petit matin à l'aube, dans une forêt, faisant du cheval à une heure indue. Etc. C'était fait pour arriver comme une apparition foudroyante qui déclenchait l'amour. Et donc, les personnages féminins qui déclencheraient pas ça, je savais pas quoi en faire. Si, peut-être un personnage de maman qui peut aider, écouter, offrir une oreille et une épaule, mais c'est pas des personnages de premier plan. Et il a fallu que je me reconfigure. Je veux dire, après la lecture de King Kong Theory, j'ai dû me reconfigurer.
C'était son manifeste pour un nouveau féminisme, hein, qui a eu beaucoup de retentissement à l'époque. Hein. Elle était moins connue qu'aujourd'hui, Virginie Despentes, mais elle avait déjà beaucoup de lectrices.
Oui, ça m'étonne pas. Enfin, et c'est encore un livre qui a un effet très fort aujourd'hui, parce qu'en fait, je le trouve immensément riche. C'est-à-dire, il est riche pour moi en tant que femme, il est riche pour moi aussi en tant qu'autrice. C'est-à-dire que ça reconfigure ma manière de voir le monde et du coup ma pratique artistique derrière. Et voilà, et j'ai essayé de faire le catalogue de mes personnages féminins et je me suis dit qu'il allait falloir que je change deux ou trois trucs.
Vous parlez du test de Bechdel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Parce qu'il est intéressant, ce test.
C'est un test qui est tiré d'une BD d'Alison Bechdel, qui est une autrice américaine. Et en fait, qui se résume à trois critères, c'est-à-dire dans une œuvre, il doit y avoir deux femmes qui sont nommées à l'égal des hommes, c'est-à-dire si les hommes ont droit à un prénom et un nom de famille, ben les femmes aussi. Ces deux femmes doivent avoir une scène où elles parlent ensemble, et c'est là que généralement ça devient plus compliqué, elles parlent d'autre chose que d'un homme. Et si une œuvre ne coche pas ces trois cases, en fait, ça veut dire qu'elle est trop centrée sur ces figures masculines, qu'il n'y a clairement pas d'égalité des sexes dans l'œuvre, le film, livre ou série qu'on regarde.
Vous citez également, alors lui, je n'en avais jamais entendu parler, c'est le test de la lampe. Il est cruel, celui-là.
Oui, qui est une variation qui est très drôle et qui est encore plus lapidaire, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer le personnage féminin de cette histoire par une lampe sans que ça modifie l'intrigue?
C'est horrible.
Ça a l'air d'être une blague, ça a l'air d'être une blague. Ça a l'air d'être fait pour provoquer des éclats de rire, mais parfois, on peut répondre oui.
Dans à peu près tous les westerns déjà.
Voilà.
Vous parlez du mépris dans lequel les écrivains, encore aujourd'hui, tiennent les écrivaines, hein, hormis quelques-unes, toujours les mêmes, Yourcenar, Marguerite Duras ou Virginia Woolf, parce qu'elles sont mortes. Mais sinon, vous êtes toujours prise un peu à la légère.
Mais en fait, c'est ce que disait Anne-Marie Garat, c'est-à-dire qu'il y a toujours une suspicion que les livres de femmes soient des livres de bonnes femmes. Et on arrive avec quand même ce doute qui est qu'on ne serait pas des artistes à part entière, des créatrices de langage, des destructrices de règles, capables d'ériger de nouveaux modèles. Non, on serait... En fait, on continuerait à être dans cette séparation de la parole qui font que les femmes se sont vues interdire en fait, la parole publique pendant très longtemps. Et aujourd'hui, cette interdiction, elle s'est juste... elle a changé de forme. C'est-à-dire, bien sûr, les femmes peuvent écrire, peuvent publier, elles le font énormément.
Et elles le faisaient déjà au 18e ou au 19e siècle.
Mais avec cette chose qui était, elles écrivent pour les femmes. Elles écrivent des traités de morale, elles écrivent des journaux intimes, elles écrivent des petits traités sur les arts, sur comment faire de l'aquarelle.
Vous dites aussi que les contrats aujourd'hui dans les maisons d'édition sont moins âprement négociés par les femmes. Les femmes reçoivent moins d'invitations dans les festivals. Elles comptent moins, quoi. Donc on les voit moins.
Oui,
elles pèsent moins.
Et là, c'est pas moi qui fais une déclaration empirique en disant voilà ce que j'ai vu. C'est les chiffres qui sont publiés dans le rapport Racine, dans les études du CNN. En fait, que ce soit dans les prix littéraires, dans les invitations en salon, dans les ceci ou cela, on observe qu'il y a moins de femmes alors qu'en fait, elles publient plus. Elles sont plus nombreuses, elles publient plus, mais elles sont moins bien payées, moins invitées, elles ont moins de place dans la presse en termes de temps, de longueur de papier, etc. Elles sont beaucoup moins présentes. Donc oui, elles sont... c'est ce que je dis, c'est que finalement, on a une chambre à nous, comme le disait Virginia Woolf. On a un petit peu de rente, mais donc moins que les hommes.
Oui, c'est ce que disait Virginia Woolf pour expliquer que les femmes écrivaient moins que les hommes. Voilà, c'est qu'elles n'avaient pas de chambre à elles et elles n'avaient pas une rente.
Les 500 livres de rente qui leur permettraient d'écrire. Donc sur la chambre, ça va mieux. Sur les rentes, ça va mieux, mais on n'est pas encore là. Et sur la question de la reconnaissance, par contre, on voit qu'il y a encore un gros décalage.
Alice Zeniter, c'est quoi pour vous la morale de toute une moitié du monde?
Je ne sais pas si c'est une morale. Ce serait un appel à aller courir et batifoler dans cette moitié du monde qui est encore trop peu racontée et qui n'est pas uniquement celle des femmes. Il y a plein d'autres chantiers possibles que j'ouvre et que je nomme dans le livre. Et c'est de dire, quand on dit que ces endroits-là sont trop peu racontés, je supporte pas la posture morale en face qui consiste à se redire et à dire, mais c'est de la censure, c'est une position woke, vous voulez qu'on raconte. Et moi, ce que je dis, c'est non, en fait, ça, c'est ouvert. Personne y allait ou très peu y sont allés. C'est un formidable appel à aller raconter autre chose, en fait. Dire qu'il reste toute une moitié du monde à raconter, c'est le programme le plus joyeux qu'on puisse fixer à la fiction.
Merci Élise Zénitaire, toute une moitié du monde, ça vient de paraître chez Flammarion. On fait une pause, on se retrouve dans un instant et on va raconter l'une des plus grandes affaires d'espionnage du XXe siècle. C'est une affaire d'hommes, ça, hein, vous allez voir. Il y a surtout des hommes dans cette histoire.